Dupuis.
Voici les titres du journal.
Décision unanime mardi au Grand Conseil Valaisan. Le demi-pont de Cherna entre Trois-Torrents et Champéry sera entièrement remplacé. Un chantier estimé à près de 6 millions de francs. À Montée, la chapelle du Clausian sera détruite car plus aux normes. C'est une page de l'histoire paroissiale qui va se tourner l'année prochaine. Et en sport, la crème des combattants s'affrontera ce samedi à Martigny. Le 20e mondial Jorge Martins promet des échanges épiques, aussi bien en kickboxing qu'en boxe thaï.
Pour la météo, dans l'ensemble, le temps sera ensoleillé ce jeudi. Demain, poursuite de ce temps ensoleillé, météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Xavier Bourgeau. Bonjour Xavier.
Bonjour. Le Grand Conseil valaisan a accepté ce matin de modifier en une seule lecture la loi sur sa police cantonale. Le Parlement va permettre l'utilisation des caméras piétonnes, les bodycams et la recherche automatisée des véhicules. Seuls les Verts ont voté contre. Les députés ont principalement tenu à ce que la police cantonale puisse utiliser une bodycam afin de documenter ses interventions sans avertissement préalable ou autorisation spéciale dans le cadre de certaines missions. Et dans le même temps, l'ensemble des policiers du canton de Vaud seront bientôt équipés également de bodycam. Le Conseil d'État a approuvé le projet de modification de la loi sur la police cantonale qui réglemente ce nouveau dispositif. L'objet devra encore passer la rampe du Grand Conseil.
Et le Grand Conseil valaisan a donné mardi son feu vert unanime au remplacement du demi-pont de Cherna sur la route cantonale entre Trois-Torrents et Champéry.
Construit en 1963, l'ouvrage est aujourd'hui trop dégradé pour garantir la sécurité des usagers. Le futur pont sera réalisé en béton fibré à ultra haute performance, un matériau plus durable qui lui assurera une durée de vie d'environ 80 ans. Le canton avait en parallèle étudié la piste d'une rénovation, mais le remplacement complet s'est imposé comme la solution la plus sûre. Les précisions de la présidente de la commission de l'équipement et des transports au Grand Conseil, Marie-José Reuse.
Il a été conclu qu'il valait mieux refaire un nouveau pont plutôt que de le réhabiliter, que faire des aménagements de colmatage, etc. Parce que les coûts étaient sensiblement les mêmes et maintenant ça aura une durée de 80 ans environ. Alors c'est assez compliqué parce qu'il faut mettre des échafaudages, il faut créer des nouvelles bases et ensuite démolir les anciennes.
Les travaux estimés à près de 6 millions de francs s'étendront entre 2026 et 2027. Et contrairement à d'autres chantiers d'envergure, la circulation sera maintenue durant toute la période, à l'exception de deux nuits nécessaires à la pose des éléments préfabriqués. C'était un sujet signé Julie Gay. Les liaisons transfrontalières vont être améliorées l'année prochaine sur le Léman. Les autorités françaises ont renforcé leur mobilisation financière pour une offre 2026 plus en phase avec les besoins exprimés notamment par les usagers français. Cette nouvelle offre est désormais soumise à la validation formelle des instances délibérantes respectives.
La chapelle du Clausian à Montet sera détruite.
Elle n'est plus aux normes et le coût des travaux de rénovation serait trop important. La mise en enquête de sa démolition court jusqu'au 24 novembre. Jérôme Hauswirth, curé de la paroisse de Montet, a ainsi célébré la dernière messe en juin 2023 et a désacralisé les lieux. Dans les années 60, Montet avait imaginé une deuxième paroisse autour de la chapelle du Clausian. Jérôme Hauswirth.
Ce hangar vient d'une usine à chapeaux qui avait fait faillite, donc c'était vraiment quelque chose de tout simple et ça devait servir de tête de pont, d'avant-poste pour un projet d'une église, d'une cure et d'une salle paroissiale. Mais de fait, dans ces années 60, c'était très tendance. Les jeunes couples se mariaient là, il y avait les missions espagnoles, les missions portugaises, les missions allemandes. Moi-même, j'y ai connu l'époque où il y avait la messe des familles. Et puis les jeunes de l'époque, je suis des années 70, eh bien, comme le samedi soir, on était de sortie, on n'allait pas à la messe. Le dimanche matin, on n'arrivait pas à se lever, on n'allait pas à la messe. C'était aussi le rendez-vous des jeunes. Il y avait la messe du dimanche soir. Donc ça nous permettait d'aller à la messe quand même le dimanche en ayant une vie sociale le samedi soir et du repos le dimanche matin. Donc c'était aussi la messe des jeunes.
Et Montet comptait alors trois lieux pour célébrer la messe, son église, celle de Chouet et la chapelle du Clausian, puisque dans la commune, à l'époque, les offices attiraient du monde. On retrouve Jérôme Hauswirth.
Les années 60 ont eu un pic, aujourd'hui on a de la peine à l'imaginer, mais la messe du dimanche des Rameaux, c'était 4000 personnes qui sont venues à la messe à Montet. Au début des années 60, le curé Bonvin avait recensé, ça veut dire il y a presque un Montaisan sur deux qui va à la messe très régulièrement. Alors dans cette idée-là, croyant que les courbes allaient toujours monter, on a non seulement fait la chapelle des Giettes, mais on avait le projet d'une deuxième paroisse sous gare. Aujourd'hui, les réalités sont inverses, on est sur une concentration. Il n'y a pas de sens de multiplier les lieux de culte, surtout au vu du coût de l'entretien.
Et l'autorisation de démolition devrait être octroyée d'ici la fin de l'année pour une disparition de la chapelle courant 2026. Un sujet de Valérie Favre. Le ministre de l'économie Guy Parmelin est arrivé à Washington ce matin. Il doit y rencontrer le représentant américain au commerce Jamieson Greer afin de discuter des droits de douane. Les entretiens auront lieu en continu, a expliqué son porte-parole Marcus Spurndly. Il est toutefois plutôt improbable qu'un accord sur les taxes douanières puisse être trouvé ce jeudi. L'agence de presse américaine Bloomberg avait affirmé lundi que la Suisse était proche de régler son différend commercial avec les États-Unis. Selon elle, un accord se dessine entre les deux pays et pourrait être atteint dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
Les SFF annonçaient il y a deux semaines une nouvelle offre, un train de nuit entre Bâle, Copenhague et Malmö à partir du mois d'avril.
Mais cette ligne est déjà menacée. La commission des finances du Conseil des États a refusé hier de débloquer les subventions nécessaires. Les explications de notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier.
Les trains de nuit sont très populaires auprès de la population, mais ils ne sont pas rentables, rappelaient les CFF lors de l'annonce de cette nouvelle offre. Les coûts du matériel roulant, des redevances pour l'utilisation des sillons et du personnel sont trop élevés, ils ne peuvent pas être couverts sans subvention. Le Conseil fédéral prévoit justement de verser pour les trains de nuit environ 47 millions de francs d'ici 2030 dans le cadre de la loi sur le CO2. Dans le budget 2026, cela représente 10 millions de francs qui viennent d'être biffés par la Commission des finances du Conseil des États. Les élus de droite et du centre estiment que la demande pour ces trains de nuit est faible, qu'il vaut mieux investir dans le trafic régional et que l'État n'est pas censé subventionner les voyages de loisirs. La Commission des finances du Conseil national doit encore se prononcer. La décision finale de maintenir ou non cette subvention sera prise lors de la session de décembre.
Si le Parlement devait renoncer à cette subvention pour les trains de nuit en 2026, les CFF annuleront leur offre Bâle-Copenhague-Malmö. Ils s'engagent à rembourser les tickets déjà achetés. À l'étranger, la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des États-Unis a pris fin hier après la promulgation par le président américain Donald Trump d'une loi validée par le Congrès. Il en a profité pour éreinter l'opposition démocrate et vanter sa politique économique. « Nous ne céderons jamais au chantage », a lancé le milliardaire républicain en signant le texte adopté peu avant par la Chambre des représentants après 43 jours qui ont bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine. Et le géant automobile japonais Toyota, numéro 1 mondial du secteur, a annoncé aujourd'hui qu'il investira jusqu'à 10 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis dans les 5 prochaines années, confirmant un chiffre évoqué par le président américain Donald Trump. Cette annonce intervient alors que Washington presse le Japon de réaliser 550 milliards de dollars d'investissement sur le sol américain en échange d'un abaissement des taxes douanières imposées aux entreprises nippones. L'ex-président français Nicolas Sarkozy sera jugé en appel dans l'affaire du financement libyen à partir du 16 mars, annoncé ce jeudi la Cour d'appel de Paris. Le procès durera jusqu'au 3 juin. L'ancien chef de l'État a été condamné le 25 septembre à 5 ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs. Le tribunal de Paris l'a reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye de Muammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Il a été incarcéré pendant 3 semaines à la prison de la Santé à Paris et libéré sous contrôle judiciaire ce lundi. On passe au sport en tennis. Yannick Sinner a validé hier son billet pour les demi-finales du Master ATP de Turin. L'Italien a battu l'Allemand Alexander Zverev pour la 4e fois de l'année sur le score de 6-4, 6-3.
Le 20e mémorial Jorge Martins réunira ce samedi des combattants d'élite à Martigny.
Et pour l'édition anniversaire du célèbre gala de sport de combat, une vingtaine d'athlètes suisses et internationaux s'affronteront devant plus de 2000 spectateurs. La remise en jeu de la ceinture mondiale de MMA, d'arts martiaux mixtes, et du titre européen de kickboxing figurent parmi les moments forts de la soirée. Les couleurs du Valais seront également défendues par les combattants de la team Martins. Une programmation de haut vol, fruit de décennies de travail selon Fernando Martins, fondateur du mémorial et de l'équipe de Martigny.
Le niveau en Suisse, il a beaucoup augmenté. On a des très très bons combattants en Suisse. On se prépare bien. C'est plus la petite Suisse, c'est des sports de combat que les gens y prenaient presque pour rigoler. Non, la Suisse maintenant, c'est du bon niveau. C'est des très bonnes écoles. C'est des très bons combattants. Des gens déterminés, savent ce qu'ils font. Ils tombent pas là. Ils n'ont pas tombé là en parachute. Et chez nous, voilà, c'est vrai que c'est la même chose. Donc, on a la relève. On a des gens jeunes, motivés, performants, qui aiment le travail. Et ça, j'ai toujours admiré ça. Des gens qui aiment le travail.
En plus de 20 ans d'existence, le mémorial Jorge Martins s'est imposé comme l'un des événements incontournables en Suisse et en Europe. Un succès qui permet de rendre accessible à tous les sports de combat. Fernando Martins.
L'esprit du MGM, c'est que tout soit parfait et le show, c'est vraiment très important. Et il y a des shows tout le temps. Il y a, en fait, même les enfants, ils doivent se retrouver avec tout ce qui est show, son, lumière, musique. Donc les gens, ils vont avoir des émotions, ça c'est sûr, mais ils peuvent avoir un verre tranquillement dans une ambiance qui est très chaleureuse, avec plein de respect. Et la soirée, elle peut être d'A à Z exceptionnelle.
Et le combattant aiglon Chendrim Bashrami sera l'une des têtes d'affiche du 20e mémorial Jorge Martins. Le champion suisse et double champion européen tentera d'imposer son kickboxing explosif samedi soir. Et de son côté, la Valdilienne de 51 ans, Jannick Avanté, multiple championne d'Europe de K1, mènera une ultime bataille avant de raccrocher définitivement les gants. C'est un sujet proposé par Anthony Dacampo. Et on termine avec du basket. Le premier derby suisse de la saison de la NBA, la Ligue professionnelle américaine, a tourné en faveur de Clint Capela. Son équipe des Houston Rockets a battu les Washington Wizards de Kishon George 135 à 112. Et si le Genevois Clint Capela n'a que peu contribué à la victoire de son équipe avec 2 points, le Montezan Kishon George a été le joueur le plus utilisé de Washington avec un peu moins de 36 minutes de jeu. Il a inscrit 16 points sur le deuxième meilleur total des Wizards.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.